Chapitre 10. La foule invisible rugit comme pour saluer le suicide de Sherlock Holmes. Henry James courut jusqu'au garde-corps. À la périphérie de sa vision, il vit se déployer d'immenses drapeaux sur le palais de l'agriculture et les bâtiments environnants, et juste devant lui, le voile de la gigantesque statue de la République dressée au bout du bassin, tomber enfin tandis que les jets d'eau montaient vers le ciel. Et tout cela parce que le président Cleveland avait vécu assez longtemps pour appuyer sur le bouton en or du manipulateur télégraphique sur son coussin de velours. Plus tard, James songea que s'il avait vraiment été un gentleman, il serait d'abord allé voir s'il pouvait porter secours à Madame Irene Adler Lorne Baxter, mais en cet instant, il se moquait comme d'une guigne de la santé de la mère de Lucan Adler. Il se pencha à la rambarde et ce qu'il vit lui arracha un cri. Holmes n'était pas parvenu à sauter suffisamment loin pour atteindre la poignée caoutchoutée à laquelle s'accrochait Lucan Adler. Il s'était rattrapé d'une main au col de la chemise du jeune homme et de l'autre à sa ceinture. Le col s'arracha et la chemise craqua aux coutures, tandis que Lucan se secouait pour le faire lâcher prise. La chemise déchirée permit à James de voir le mécanisme sangler à son avant-bras se déclencher une nouvelle fois et déployer la lame le long de la main du tueur. Holmes se rattrapa en s'agrippant à Lucan et remonta comme un singe sur un arbre humain. Il saisit Lucan par le cou, lui faisant ployer la tête comme s'il voulait l'embrasser, et libéra sa main gauche qui passa de la ceinture de Lucan à son poignet droit pour bloquer la lame. Pas assez vite pour s'éviter une autre entaille. James vit de nouveau jaillir le sang. Holmes était une fois encore touché. Affolé, Henry James regarda autour de lui. Il avait, sans y prêter attention, entendu le bruit de l'ascenseur qui descendait puis remontait et arrivait de nouveau à l'étage de la terrasse. Mais cela ne l'alarma pas. Irene Adler était couchée à ses pieds, sans doute morte. Les yeux de James se posèrent alors sur le Mauser. Il le ramassa, bon Dieu, c'était lourd, et il l'appuya sur le haut de la rambarde pour ne pas trembler pendant qu'il regardait à travers la lunette. Tenant fermement le fût en bois sous le canon, il arma le levier bien huilé. Une munition intacte fut éjectée et roula sous le projecteur allemand. Il se pouvait que cela soit la dernière cartouche, mais il n'avait pas le temps de vérifier. Il ne se demanda pas non plus si, connaissant mal en armes à feu, si la visée télescopique n'avait pas été faussée quand le fusil était tombé. Une seconde, il ne comprit pas ce qu'il voyait dans le cercle du viseur, puis l'image se précisa bien que restant assez brumeuse. Holmes et Lucan tournoyaient sur eux-mêmes, accrochés à la poulie qui les retenait au câble. La chemise blanche de Lucan était en lambeaux et couverte de sang. Le sang de Holmes, songea James. Le torse nu du détective était aussi blanc et lacéré que la chemise de son adversaire. Ils auraient déjà dû être arrivés en bas, mais le matériel n'avait pas été choisi pour supporter un tel poids. La poulie glissait sur le câble par à-coups. Elle dévalait une dizaine de mètres, ralentissait presque jusqu'à l'arrêt, puis repartait. Les deux hommes se battaient comme des bêtes fauves. Profitant d'une descente, Holmes attrapa le poignet droit de Lucan et réussit à appuyer le mécanisme d'ouverture de la lame sur le câble. Il y eut des étincelles, la pièce se déforma et le poignard fut mis hors de combat. Lucan attrapa le guidon avec sa main droite et libéra la gauche pour frapper la tête de Holmes. Il se donnait des coups de crâne, des coups de dents. Lucan tenta d'aveugler Holmes avec les doigts au moment même où celui-ci le saisissait à la gorge. La sueur coulait du front de James dans ses yeux. Il les essuya et se colla de nouveau à la lunette. La poulie avait ralenti et il se balançait dans le vide tout en combattant avec acharnement. Puis la poulie se débloqua et se remit à rouler vers la balise qui formait un îlot dans les eaux du lac Michigan. James ne vit plus que du blanc dans la lunette et pensa que c'était, que ce pouvait être, le dos de Lucan Adler. Il retint son souffle et appuya sur la détente. La crosse n'étant pas correctement calée contre son épaule, le recul le propulsa violemment en arrière et le fit tomber sur l'arrière-train. Au bout de 40 mètres de la descente le long du câble, Holmes réussit à s'accrocher au guidon. Les deux hommes étaient face à face. Lucan souriait largement et tous les moyens étaient bons pour faire lâcher l'adversaire. Coup de coude, de poing, de genou. Lucan était parvenu à redresser sa lame et la dirigeait de nouveau avec précision de la main droite, se tenant à la poignée de la main gauche. La prise de Holmes sur le guidon était moins bonne et l'empêchait de protéger son côté gauche.
« Crève, charogne !»
hurla Lucan en dirigeant un coup de lame vers le cœur de Holmes. Des mots sortirent de la bouche de Holmes que Lucan ne distingua pas. Peut-être « Dieu me pardonne » ou « Dieu te pardonne », mais rien ne pouvait arrêter le coup mortel. À cet instant, une balle siffla en passant entre les deux hommes. Elle brûla un sillon dans le haut du bras de Lucan et égratigna le dos de la main de Holmes qu'il baissait pour se protéger. L'impact fut juste suffisant pour détourner la lame de Lucan, qui, au lieu de s'enfoncer dans le cœur de Holmes, prit une direction tangentielle et coupa la chair comme un rasoir et fut arrêté par une côte. Holmes sortit le petit revolver presse-citron de la poche droite de son pantalon, l'appuya sous le diaphragme de Lucan, à l'endroit où le muscle rencontrait l'os, pressa la poignée pour libérer sa drôle de sécurité et tira deux fois dans l'abdomen de Lucan Adler. James entendit les deux autres détonations, mais crut percevoir le double écho de son propre tir. Drummond et quelques agents en costume gris accouraient vers lui. Deux autres s'arrêtèrent pour porter secours à Irène Adler, toujours inconsciente. Drummond aida James à se remettre sur pied juste au moment où Lucan Adler, 20 mètres au-dessus du sol, lâchait prise et tombait. Holmes se tenait encore avec difficulté à la poignée de la poulie qui reprit de la vitesse vers la balise. Lucan tomba bras en croix, tête en arrière, yeux levés vers le ciel, formant une figure christique qui frappa James. Il aurait dû tomber droit dans l'eau, mais il arriva trop près de la digue et sa tête frappa le béton avec un bruit qui s'entendit jusqu'à la terrasse où James et les hommes de Drummond contemplaient la scène impuissants. Puis James vit que Holmes, alors qu'il était encore à une hauteur de 10 mètres, lâchait la poignée, soit volontairement, soit par épuisement, et tombait dans l'eau, manquant de peu les blocs de béton qui protégeaient la base de la balise. James, Drummond et deux autres agents se penchèrent sur la rambarde pour tâcher de voir si Holmes remontait à la surface. Drummond se servit de ses jumelles, puis les passa à James. Holmes ne remontait pas. Il ne remontait pas. Il ne remontait toujours pas. Puis soudain, ils le virent se hisser faiblement à bord du bateau à moteur que Lucan Adler avait amarré là. Ensanglanté, Holmes se laissa tomber sur le dos au fond du bateau et ne bougea plus. Drummond reprit les jumelles et observa attentivement le détective.
« Je crois qu'il respire. Les bateaux de secours arrivent. »
Surgissant de derrière le gros cuirassé Michigan, 8 vedettes des forces de l'ordre arrivèrent à pleine puissance, 3 de la police de Chicago et 5 de la garde colombienne. Les embarcations ralentirent et se dirigèrent vers le bateau où Holmes se vidait de son sang. James vit un homme portant une sacoche médicale monter à bord. Les jambes de James se dérobèrent sous lui. Il dut s'asseoir par terre, la respiration précipitée. Drummond s'accroupit à côté de lui et lui enleva le Mauser d'une main, tout en lui tapotant le dos de l'autre. James laissa partir le fusil avec un mouvement de répulsion, se jurant de ne plus toucher à une arme à feu de sa vie. Il pensa encore une fois à ses frères, Wilkie et Bob, qui avaient vu la mort de si près pendant la guerre et qui, malgré leurs blessures et leurs calvaires, avaient tenu à reprendre les armes. Il pensa à son cousin Gus, qu'il avait trouvé si beau dans l'atelier de dessin et dont le corps pâle constellé de taches de rousseur pourrissait dans la terre de Virginie, après avoir reçu d'un combattant confédéré une balle semblable à celle que James venait de tirer. Non. L'exaltation qu'il avait envahie dans les abattoirs de Chicago comme un whisky américain trop fort s'était totalement dissipée. Que valait l'existence, celle d'un personnage de fiction ou d'une personne réelle, si le rôle impliquait de tuer un autre être humain? C'était barbare, c'était mal, c'était indigne de Henry James, et c'était tricher avec la vérité artistique et le dur travail de l'écrivain.
« Le corps de Lucan Adler n'est pas encore remonté à la surface !» annonça un agent penché sur le garde-fou.
Drummond, toujours accroupi près de l'écrivain, répéta cette information comme si James était dur d'oreille.
« Je ne veux pas le savoir. »
gémit James ramassé sur lui-même en baissant le visage sur ses genoux.